France Inter. Éric Delvaux. Le téléphone sonne.
La Grèce, le Maroc, l'Algérie, l'Espagne, le Portugal et désormais la France. On focalise ce soir sur les premiers gros incendies de l'été apparus cette nuit dans le massif des Maures au-dessus du golfe de Saint-Tropez. Alors vous avez peut-être entendu les témoignages à l'instant dans le journal. Question ce soir au téléphone sonne sur cette terre qui brûle. Même si cette saison, on va se demander si l'ampleur de la catastrophe, sa vitesse de propagation exceptionnelle hier soir ne sont pas là encore des signes de changement climatique. Quel type de prévention aussi? Eh bien, n'hésitez pas à venir témoigner et poser vos questions à nos invités. Un seul numéro, c'est le 01 45 24 7000. Les standardistes de France Inter attendent vos appels.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Avec quatre invités ce soir pour répondre à vos questions, nous serons avec en ligne avec Thierry Bongiorno, c'est le maire de Gonfaron et c'est autour de cette commune au-dessus de Saint-Tropez que les premières flammes sont apparues hier soir. Dans un instant, le colonel Pierre Chalère, président de la Fédération nationale des pompiers de France, je précise qu'il connaît particulièrement bien cette région du sud de la France. Et pour les questions plus scientifiques, nous serons en ligne avec Frédéric Médaille, qui est professeur des universités à l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale. Également dans un instant, Éric Maillet, chercheur à Aix-en-Provence, à l'unité de recherche risques, écosystèmes et vulnérabilité, environnement. Bonsoir à tous les quatre. Thierry Bongiorno, maire de Gonfaron, bonjour, bonsoir.
Bonsoir.
C'est donc autour de cette commune, de votre commune, que les flammes sont apparues hier soir. Dites-nous quelle est la situation ce soir dans et autour de votre commune. Le feu n'est toujours pas maîtrisé partout.
Alors non, il n'est pas maîtrisé partout. Nous, on a, c'est-à-dire que nous sur la commune de Gonfaron, on a eu une reprise cet après-midi assez importante. Et donc le reste donc du front de feu se trouve donc sur l'avant, plutôt sur le littoral. Mmh. Et nous avons eu aussi également une autre prise de feu dans la plaine des Maures. Mmh. Voilà, donc qui est à l'heure actuelle en train d'être combattu par les bombardiers d'eau.
Oui, deux reprises de feu dans et autour de votre commune surtout. Les 48 heures à venir seront déterminantes?
Oui, je pense que 48 heures, je dirais même moins, parce que si déjà on arrive à bien le maîtriser, au moins si à la fin de la nuit, voilà, on va dire ça comme ça. Je pense que demain après il sera totalement maîtrisé et puis bon il y aura je dirais que l'attente des 48 heures justement et puis pour pouvoir bien le fixer.
Alors voilà. Quels sont les dégâts? Est-ce que des maisons ont été touchées par les flammes?
Ah oui, bien sûr, nous ce qui nous concerne, alors le feu a fait 22 kilomètres, donc il a parcouru ces 22 kilomètres en 7 heures, ce qui est extrêmement rapide. Mmh. Ça a été vraiment fulgurant. Donc sur son passage, donc il y a eu vraiment des sautes de feu de 300, 400, voire 800 mètres, et ce qui fait des trouées vertes. Donc il y a eu à peu près 6600 hectares donc de parcouru. Mais à environ 4000 hectares de brûlés. Bon, pour vraiment les chiffres exacts.
Oui, on les aura un peu plus tard.
Oui. Mmh. Voilà, mmh. C'est des estimations. Oui, et sur son passage, bien sûr, dû à la violence et à la vitesse de cet incendie, bien sûr, il y a des habitations qui ont été brûlées. Et nous aussi, de notre côté, donc pas exactement. Nous, on a eu que des cabanons et des serres et des garages sur Gonfaron. On a failli avoir cet après-midi une écurie donc de chevaux, mais les canadaires, comme je vous dis, sont intervenus assez rapidement. Mmh. Par contre, du côté donc du Luc, oui, il y a eu des maisons brûlées et on le regrette. Bon, pour le moment, je pense que il n'y a pas de victimes, c'est l'essentiel. Voilà.
Le cocktail détonant avant un tel incendie, c'est toujours la même chose: la canicule, le vent et la saison touristique.
Exactement. Alors saison touristique, bon, c'est dû à l'époque, c'est l'été, voilà, donc qui dit été dit chaleur, canicule, Donc pas d'humidité du tout. Donc tous les mauvais ingrédients, je dirais, étaient réunis pour que justement ce cocktail détonnant fasse autant de dégâts.
Et face à ce gigantesque incendie sur un front de 22 km, pas ou peu de personnes blessées, quelques personnes intoxiquées, il faut dire que des milliers de personnes avaient été évacuées à titre préventif. Qui a géré ça? Comment ça se passe précisément?
Eh bien, écoutez, chaque commune où l'incendie passe, donc active son plan de sauvegarde et donc gère l'évacuation des avec les pompiers, hein, bien entendu, hein, gère l'évacuation et la gendarmerie gère l'évacuation des administrés. Alors il y a des communes qui ont été plus ou moins impactées, bien entendu. Plus vous allez avancer vers le littoral, vous allez avoir bien entendu plus d'habitations, puisque, vous l'avez dit, c'est la saison touristique.
Voilà. Pour les propriétaires qui habitent dans les zones exposées, il y a une obligation légale de débroussaillage. Est-ce que cette obligation est généralement bien respectée dans votre commune?
Ah ben oui, enfin, nous, on passe tous les ans, hein, notre comité communal de feux de forêt, qui est d'ailleurs sur le terrain encore en ce moment et qui le sera pendant jusqu'à la fin des opérations, passe toutes les années pour indiquer aux personnes qui sont concernées leur obligation de débroussaillement, et ils sont passibles, bien entendu, donc d'un procès verbal si celle-ci n'est pas faite et exécutée.
Il y a quelques minutes seulement, Emmanuel Macron est venu dire en voisin, il était au phare de Brégançon, il est venu dire à côté de votre commune l'effort national conséquent, a-t-il dit, qui a permis d'éviter la catastrophe. Est-ce que vous estimez, monsieur le maire, que les moyens déployés ont effectivement été à la hauteur du sinistre?
Oui, parce que le feu a été déclaré à 17h45, dans la foulée à 17h peut-être 46-47, j'étais mis au courant parce que c'est la vigie donc de Gonfaron, on a une vigie nous sur le village, qui a donc déclenché l'alerte et qui m'a automatiquement averti de suite après. Je sortais de la mairie, donc je pouvais pas faire plus vite. Hein. Ouais. Et donc j'ai pris ma voiture, je me suis rendu sur le lieu, et c'est à 4 minutes, hein, c'était à 4 minutes du village. Et déjà, je ne pouvais plus passer. Le feu avait déjà passé la route, et je ne pouvais plus accéder au point de départ. Et de suite, il y avait donc des moyens aériens. Alors, il y avait des colonnes qui se trouvaient en renfort, qui étaient arrivées la veille, qui se trouvaient donc sur le Luc ou le Canet, je crois, qui étaient de Lain, il me semble. Donc, ils étaient déjà opérationnels. Et puis, c'est à 10 km. Hein. Donc ils sont arrivés de suite, nous avons eu des hélicoptères quasiment dans les 5 minutes, et puis après les bombardiers d'eau, enfin les canadaires sont arrivés après coup, mais très rapidement aussi. Donc on a eu de très très gros moyens mis en place hier sur le début de l'incendie, et même jusqu'à la nuit, bien entendu, parce qu'après on ne peut plus voler.
Thierry, voilà. Buongiorno, maire de Gonfaron, merci, on a promis de vous libérer assez tôt, parce qu'effectivement, hein, c'est encore une nuit et quelques heures d'attente et éprouvante qui vous attendent. On vous souhaite bon courage, hein, Thierry Buongiorno. Je rappelle que c'est autour de votre commune, donc les premières flammes sont apparues. Merci et bon courage. On parlait des moyens à l'instant, on va en reparler avec vous. Colonel Pierre Chaleur, bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir, vous êtes président de la Fédération nationale des pompiers de France et vous connaissez particulièrement bien cette région du Sud. On entendait à l'instant, hein, le maire de Gonfaron dire que cet après-midi, il y a eu deux reprises de feu. C'est ce que l'on redoute le plus chez les pompiers aussi ce soir.
Oui, tout à fait. Je précise juste, je vous remercie de votre générosité, mais je ne suis pas président de la Fédération. J'ai le plaisir de collaborer à tout ce qui se fait en termes de communication et on est assez sollicité en ce moment, évidemment.
Merci de le préciser.
La reprise, bien sûr, c'est quelque chose qu'on a tous à l'esprit parce que Monsieur Buongiorno, maire de Gonfaron, disait que le feu a parcouru 22 km, ce qui est exact. Un feu qui a cette dimension, ça veut dire qu'il va engendrer entre 60 et 80 km de périphérie et de lisière qu'il va falloir, mètre après mètre, éteindre complètement de façon à limiter tout risque de reprise. Donc vous pouvez tout de suite imaginer, Éric Delvaux, le travail colossal que ça représente, même s'il y a près de 1000 sapeurs-pompiers et sauveteurs de diverses natures qui sont engagés. il y a quand même plusieurs jours de travail pour arriver à ce que l'un quelconque des flancs de cet incendie ne puisse, une fois que le soleil donne toute sa puissance en milieu de journée et une fois que le vent s'est relevé, comme cet après-midi, ne puisse repartir. Donc oui, il y a un travail harassant, mais qui est un travail absolument indispensable vers les reprises.
Pour être précis, cette mission désormais, c'est d'aller noyer des dizaines de kilomètres de lisières d'incendie. C'est ça qui vous attend dans les prochaines heures, c'est chez les pompiers ?
C'est ça. Alors en fait, on peut pas faire d'impasse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer qu'on va laisser une partie de la périphérie du feu s'éteindre toute seule. Il faut donc aller travailler partout. Alors ça se fait avec des moyens d'extinction, le plus souvent des engins, des tuyaux, éventuellement des seaux-pompes et des outils de chantier. Mais il s'agit absolument, surtout dans la forêt des morts, qui est une magnifique forêt, avec des essences arborées qui sont très belles, avec des chênes lièges notamment, avec des chênes verts, avec des pins bien sûr, et puis quelques autres essences, notamment finir tout ce qui va continuer à brûler dans les oliveraies, par exemple, malheureusement les souches d'olivier, qui va continuer à brûler longtemps. L'impact... Donc il y a effectivement quelques jours de travail devant nous, et quelques nuits.
L'impact sur la biodiversité, on va en parler dans un instant avec nos deux autres invités. On entend parler de méta-incendie, ça signifie quoi, méta-incendie ?
Alors, l'expression qui a été utilisée, je ne sais pas si elle repose sur une dénomination scientifique, peut-être que nos deux autres invités pourront en parler. Ce qu'on peut dire en revanche, parce qu'il faut relativiser un petit peu les choses, c'est que même si la surface qui a été détruite est considérable, celle qui a été parcourue près de un peu plus de 6000 hectares et puis 3500 brûlés, ce n'est pas une première, malheureusement, pour le massif des morts. Le massif des morts et le feu entretiennent des relations compliquées, on va dire, pour faire dans la litote depuis quelques milliers d'années. Et ce n'est pas le plus grand incendie qui ait touché le massif des morts. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que les conditions qui prévalaient hier après-midi, et vous avez parlé à juste titre de cocktail détonnant, étaient des conditions qui ont abouti à ce qu'il ne soit pas possible de maîtriser cet incendie, y compris avec des moyens importants qui étaient prépositionnés dans la plaine des morts. Vous avez parlé de cocktail détonant, c'est tout à fait vrai. J'ajoute un ingrédient, si vous permettez. La masse d'air qui était sur le Var hier après-midi était une masse d'air extrêmement sèche, avec un taux d'hygrométrie qui est descendu aux alentours de 20 ou 15%. Ça donne cette impression un peu pénible quand on respire, d'avoir du mal à respirer parce que l'air est extrêmement sec. C'est cet air sec... avec le vent, après 3 jours de canicule où on a des températures qui ont été entre 35 et 40 degrés, spécialement dans la plaine des morts, qui rend tout départ de feu extrêmement difficile à maîtriser.
On entendait d'ailleurs à ce propos les pompiers dire ce midi, notamment sur France Inter, leur stupéfaction devant la vitesse de propagation du feu. Une vitesse jamais vue, disait-il. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? On posera la même question dans un instant à nos invités scientifiques. Mais chez les pompiers, vous avez une idée déjà?
Alors, je serais très intéressé par les réponses de nos amis, mais d'ores et déjà, quand on a ce cocktail, la réserve en eau du sol, c'est-à-dire l'eau qui reste dans les végétaux, qui remonte à la dernière pluie maintenant, qui date de plusieurs semaines, donc on a de la végétation qui est disponible et disposée à pouvoir prendre feu avec une sollicitation. La vitesse du vent, mais aussi les fortes températures et cette masse d'air très sèche, c'est un peu comme si on avait, hier après-midi, installé un sèche-cheveux géant à l'entrée de la plaine des morts et qu'on ait poussé le feu de cette façon-là. Ce qui explique qu'il a, on peut dire trivialement, qu'il a piqué un sprint à entre 5 et 8 km heure sur une partie de son parcours. Et ce qui fait que c'est extrêmement difficile, même avec beaucoup d'avions bombardiers d'eau et même avec des moyens terrestres importants, d'arriver à maîtriser quoi que ce soit. Alors, bien sûr, il a été très vite et puis on n'a pas pu l'empêcher de faire le parcours qu'il a déjà fait souvent dans le passé, hein, il faut s'en souvenir. Mais en revanche, on est arrivé à ce qu'il n'y ait pas jusqu'à maintenant de victimes et de pertes humaines. Et ça, réellement, c'est notre plus belle récompense pour ce travail qu'on fait depuis longtemps.
Il est 19h33 sur France Inter. Question jusqu'à 20h sur les incendies et notamment ce gros incendie qui dévaste depuis hier après-midi. Le massif des morts, 01 45 24 7000. Gilbert est en ligne de Blois. Bonsoir Gilbert.
Oui, bonsoir.
Quelle est votre question ?
Ma question, c'est donc, on a des forêts qui sèchent de plus en plus. Hein. Je suis en Sologne, je suis inquiet pour l'année prochaine s'il continue à faire très sec. Or, le seul moyen vraiment efficace d'interrompre un feu rapidement, c'est les moyens aériens. Or, les étangs de Sologne ne sont pas assez grands pour que les Canadairs se posent, et on a, enfin, et on n'a aucun petit avion type Stoll, d'atterrissage court, qui pourrait se poser dans les champs, par exemple, ou sur des routes, être rechargé par les agriculteurs avec leur forage ou les pompiers et repartir immédiatement. Et en mettant 3-4 à disposition des départements, on aurait une noria d'avions qui pourraient attaquer les feux très très tôt. Et les dégâts, à mon avis, seraient beaucoup moins conséquents, puisque ce qui fait qu'un dégât est conséquent, c'est le temps qu'on met à éteindre le feu. Or, tout existe. Le système d'aile, on le connaît. Le système de train d'atterrissage, on le connaît. Enfin, on a des ingénieurs aéronautiques qui sont super en ce domaine-là. Et il n'y a aucun avion de ce type, ni en France, ni dans le monde. C'est un peu dommage.
Eh bien, merci de ce témoignage et de cette question. On va les poser peut-être dans un instant au colonel Pierre Chaleur. Je voudrais la poser aussi à Éric Maillet. Bonsoir Éric Maillet.
Oui, bonsoir.
Vous êtes chercheur à Aix-en-Provence à l'unité de recherche risque écosystémique et vulnérabilité environnement. Notre auditeur Gilbert parlait d'avions plus petits qui soient capables de se poser sur un petit terrain et non pas toujours des gros canadairs dans les risques de prévention, dans la prévention des risques. Est-ce que ce type d'appareil existe ou pourrait exister selon vous?
Il y a quelques exemplaires de ce type d'appareil plus léger hein, que les canadairs qui sont en service, notamment dans l'Hérault. Il y a des services d'extinction qui louent des appareils de type ça s'appelle des AT, des choses comme ça, des monomoteurs, alors qu'ils risquent d'être beaucoup moins fiables, hein, qui ont évidemment un rayon d'action qui est beaucoup plus faible. Il faut voir que les canadairs ont un rayon d'action qui est tout à fait considérable. Peu importe qu'il y ait une surface proche, hein, et ils vont aller un peu plus loin, ils vont aller couper dans un plan d'eau plus éloigné, et c'est pas réellement ça qui va être un problème. Il y a un vrai problème, me semble-t-il, mais là le colonel pourra en parler du renouvellement en fait des avions actuellement, notamment après l'arrêt des trackers, vous savez, des trackers qui étaient donc des bombardiers.
Bombardiers d'eau,
mais qui n'étaient pas écopeurs. Ils ont été arrêtés, ils sont remplacés progressivement par les Dash. Voilà, donc il faut que ça aille le plus vite possible.
On va poser la question tout de suite au colonel Pierre Chaleur. Je ne sais pas si vous êtes spécialiste des avions Canadair et autres objets volants pour aller secourir les régions. La flotte vieillissante ou pas, colonel Pierre Chaleur?
Alors, sur ces objets volants très bien identifiés et très utiles pour nous, qui sont des partenaires quotidiens, la flotte vieillit de façon normale et de façon naturelle pour une flotte d'avions bombardiers d'eau qui sont soumis à des contraintes et une utilisation intense par vent fort, en volant dans la fumée, en écopant pour les Canadairs sur des mers formées, ce qui crée des contraintes importantes. Donc, que la flotte ait son vieillissement normal, c'est tout à fait évident. Mais les procédures de renouvellement sont en cours. La France est le pays d'Europe qui a, depuis le plus longtemps, une flotte nationale entre les mains du ministre de l'Intérieur et du directeur général de la Sécurité civile d'avions bombardiers d'eau. L'acquisition qui a été décidée il y a quelques années de bombardiers d'eau de type Dash est un progrès extrêmement important. Ce sont des avions qui vont très vite, qui larguent 10 tonnes de retardant. Et donc qui sont absolument utiles. La flotte se renouvelle régulièrement et naturellement. Je parie par ailleurs sur le fait que un grand nombre de pays d'Europe et hors Europe, notamment dans le bassin méditerranéen, ayant été frappés extrêmement durement cet été par des incendies de forêt de grande dimension, il est très vraisemblable, et en tout cas c'est ce que nous appelons de nos voeux, que les pays s'unissent et s'organisent de façon à générer un flux de commandes qui soit important. Mais la France est loin d'être en retard dans ce domaine.
01 45 24 7000. Fabien nous appelle de l'Isère. Bonsoir Fabien.
Deux secondes. Oui, bonsoir.
Bonsoir. Excusez-moi. Quelle est votre question, je vous en prie?
Oui, donc, moi, j'ai entendu dire que dans les Landes, si je ne me trompe pas, il y avait des systèmes de pare-feu avec des points d'eau prévus. Alors, je voulais d'abord savoir si mon information était juste et il existait des systèmes équivalents dans le sud de la France.
Alors,
s'ils n'existaient pas, pourquoi?
Alors, je ne sais pas si on va pouvoir dire pourquoi. Et est-ce qu'on peut vérifier cette information? Je vais la poser peut-être à Éric Maillet sur les risques de prévention. Les pare-feux, les points d'eau dans les Landes, est-ce que ça existe aussi dans le sud de la France?
Oui, alors la défense de la forêt contre l'incendie dans les Landes, c'est un système qui est assez particulier, hein, puisque c'est une forêt de production dans les Landes. Et donc, ce sont beaucoup les associations de propriétaires, en fait, qui ont une bonne part en charge de la DFCI, ce qu'on appelle la DFCI, l'équipement des massifs contre le risque d'incendie de forêt. Mais ce type d'installation existe dans le sud-est, hein, bien évidemment, des pare-feux, il y en a beaucoup dans tout le sud de la France, on appelle ça plutôt des coupures de combustible qui vont avoir différentes fonctions, notamment des fonctions de zone d'appui pour permettre aux pompiers d'intervenir en bordure du feu, latéralement par exemple, et puis divers autres types de coupures de combustible. Et les massifs sont équipés, hein, les massifs sont, monsieur le maire en parlait tout à l'heure, hein, ils sont équipés de pistes DFCI, de citernes DFCI, tout ça, ça se fait dans le cadre de programmes d'aménagement des forêts qui continuent à avoir une certaine efficacité. Et puis lorsque l'événement est exceptionnel comme ça se produit aujourd'hui, et ben elles sont susceptibles éventuellement d'être dépassées dans certaines situations.
Et tout à l'heure le maire de la commune de Gonfaron disait aussi combien l'obligation de débroussaillage était plutôt bien respectée dans sa commune à grande échelle. Éric Maillet, est-ce que vous faites le même constat?
Alors pas tout à fait, effectivement. Si d'ailleurs il n'y a pas eu trop pour l'instant de dégâts sur la commune de Gonfaron, sur les maisons, c'est peut-être aussi parce que il y avait sûrement eu un effort particulier au niveau de cette commune pour faire respecter les OLD.
Alors les OLD, c'est-à-dire
globalement obligation légale de débroussaillement.
Oui, bien sûr.
Donc ces obligations, oui, dans certaines situations critiques, sont insuffisamment, c'est un secret pour personne, hein, sont insuffisamment respectées pour diverses raisons. Hein. Des fois, c'est un petit peu compliqué. Des fois même les résidents ne sont pas si bien informés que ça. Ils savent pas trop. Est-ce qu'ils sont dans la zone d'obligation ou est-ce qu'ils sont plus loin?
Il faut se renseigner etc. auprès de la mairie ou de la préfecture. Dans ce qu'on appelle la gestion active des forêts, est-ce qu'on sait comment ralentir la propagation des incendies?
Oui,
selon les essences d'arbres, par exemple?
Alors, c'est peut-être pas le premier facteur sur lequel on va intervenir, et en particulier en Méditerranée, hein, parce que tout simplement, c'est extrêmement compliqué d'installer la plupart des forêts sont des forêts spontanées en Méditerranée. Il y a assez peu de plantations, il y en a, hein, mais c'est pas le principal. Et donc, imaginez, on peut pas changer des écosystèmes comme ça, typiquement des écosystèmes, des garrigues, par exemple, c'est extrêmement compliqué, extrêmement lourd. Ce sont des opérations en plus qui méritent d'être validées scientifiquement. Hein. Typiquement, on sait que les feuillus caducifoliés, quoi, qui perdent leurs feuilles, avec le changement climatique, là, ils ont tendance maintenant de plus en plus à sécher en été, à la fin de l'été. Et donc, si vous remplacez du pin, par exemple, par du feuillu, vous risquez d'avoir ce type de phénomène, donc d'être pas forcément très efficace. Donc, il y a toutes ces questions. C'est pas la première, c'est pas les espèces sur lesquelles on va en premier lieu travailler. On va beaucoup plus travailler sur la biomasse combustible, essayer de diminuer la biomasse combustible.
Alors, qu'est-ce qu'on appelle la biomasse combustible? C'est les arbres qui brûlent plus facilement?
c'est toute la biomasse qui est produite par la forêt qui est potentiellement inflammable, en particulier la biomasse morte, évidemment. Et donc, on va essayer de la diminuer, soit en allant jusque à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la coupure de combustible, où on va supprimer autant que possible le combustible ligneux des arbres.
On va retourner au standard, au 01 45 24 7000. Floriane est en ligne. Bonsoir Floriane.
Bonsoir.
Quelle est votre question ou votre commentaire ?
Oui, alors moi j'avais un commentaire.
On commence par ça.
Je trouve qu'on a toujours une vision complètement anthropocentrée, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de victime humaine, de dégâts matériels, les forêts, bon, en général on les prend en compte parce qu'elles nous sont utiles, soit elles nous rapportent, soit elles nous donnent de l'oxygène, etc. On oublie tout le temps les millions de vies animales qui brûlent vives, parce que c'est le cas, et les insectes, hein, il y en a énormément, ça nous est utile aussi, sur les sols brûlés, mais il y a tous les animaux qui vivent dans ces forêts.
Alors, mea culpa, parce que c'est moi qui ai dit à l'instant qu'il n'y avait pas de victimes, seulement quelques personnes intoxiquées. Eh bien, on va justement...
Monsieur le maire de Gonfoiron l'a dit aussi, et c'est chaque fois, et dans le monde, partout où ça brûle, il y a des millions d'animaux qui brûlent vifs. Et on a déjà détruit 87% de la biodiversité qui nous est essentielle à la vie. Et ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on commence à le prendre en compte.
Eh bien, on va le prendre en compte tout de suite, voilà. Puisque notre dernier invité, Frédéric Médaille, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur des universités à l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale. Cette auditrice le disait à l'instant, toute cette flore et cette faune partie en fumée. Dans quelle proportion l'incendie de cette nuit dans la plaine des Morts est-elle une catastrophe pour la biodiversité ?
À l'heure actuelle, c'est encore difficile d'estimer réellement les dégâts, puisque pour le moment, on n'a pas les superficies couvertes et surtout, on n'a pas connaissance de l'intensité du feu, qui peut être très variable d'un endroit à l'autre, selon les paysages, selon le type de végétation. Donc là, vraiment, faire un bilan à l'heure actuelle, c'est très prématuré. Toutefois, on peut dire que la biodiversité va réagir de façon différente. On peut parler de catastrophe écologique, on emploie souvent ce terme, mais ce n'est pas réellement le cas. La nature méditerranéenne est quand même bien adapté naturellement aux incendies de forêt. Donc il y a une résilience écologique qui se fait en général, je dirais, de façon naturelle. Maintenant, le problème, c'est quand les incendies de forêt sont trop fréquents et trop intenses, ce qu'on voit de plus en plus ces dernières décennies. Donc ça, c'est un réel problème. Après, si on en vient au niveau de la biodiversité des morts en tant que telle, la réponse va être différente selon les compartiments biologiques concernés. La flore va réagir de façon relativement rapide. Ça va dépendre des types d'espèces, des essences, hein, on en a parlé tout à l'heure, hein, mais il va y avoir certaines espèces qui vont pouvoir résister, germer très vite après les premières pluies automnales, donc ça, c'est pas réellement un problème. La résilience, encore une fois, de ces milieux méditerranéens est relativement correcte. Pour revenir à la question de votre auditrice, le problème est pour certains compartiments de la faune, et en particulier la fameuse tortue d'Hermann qui est présente dans cette plaine des Morts. C'était, enfin, je dis c'était, mais ça reste malgré tout un des derniers bastions de cette espèce au niveau de la France méditerranéenne. On ne la retrouve plus que dans les Morts et en Corse. Et effectivement, tout un ensemble d'études ont montré que les incendies de forêt à répétition avaient un impact notable sur la survie de cette espèce, qui est une espèce très rare, très menacée et vulnérable à l'échelle de son aire de distribution méditerranéenne.
C'est-à-dire, on entend aussi que la tortue d'Hermann a le réflexe d'aller s'enterrer pour se protéger en cas d'incendie. Est-ce qu'il y a de quoi là nous rassurer pour ces tortues d'Hermann ?
Pas vraiment, parce que contrairement à l'autre tortue qui habite la plaine des Morts, qui est la cistude et qui est plutôt une tortue aquatique ou semi-aquatique qui, elle, peut s'enfoncer dans les dernières flaques restantes, la tortue d'Hermann a des capacités échappatoires relativement réduites. Donc là, on peut s'attendre à effectivement avoir une mortalité importante, mais qui est quand même très très variable. Donc là, il va falloir voir ce qu'il en est, mais il faut garder à l'esprit que cette tortue d'Amman dans la plaine des morts, on avait les plus fortes densités, de l'ordre de 10 individus à l'hectare, ce qui est vraiment très très important. Donc là, il va falloir faire un bilan important. Pour ce qui concerne les insectes, il y a relativement peu d'études. Il y a des insectes qui sont favorisés par le passage de l'incendie. Donc l'incendie, encore une fois, c'est quand même un phénomène naturel qui participe au cycle écologique de régénération des écosystèmes. Le gros problème, ce sont maintenant ces incendies de grande ampleur qui deviennent de plus en plus fréquents, on le voit.
Des incendies particulièrement violents, effectivement, la nuit dernière dans le massif des Morts, avec, on va le rappeler, une vitesse de propagation 4 fois plus rapide que la normale, disent les pompiers et ceux qui ont pu observer ce phénomène. Est-ce que le scientifique que vous êtes y voit une conséquence du changement climatique ou ça n'a rien à voir ?
C'est toujours difficile d'identifier une seule cause. Ce sont des phénomènes qui s'expliquent par plusieurs paramètres, mais effectivement, le changement climatique, et on voit les derniers résultats des modélisations, avec des réchauffements prévus de 1,5 à 4,5 degrés à l'horizon 2100, tout ceci participe à augmenter les périodes de sécheresse, avec une végétation qui va subir de plus en plus des impacts très forts et des températures très élevées. On était juste là, quelques jours auparavant, dans une phase de canicule dans le sud de la France. Donc tout ceci participe, bien sûr, à augmenter la vitesse de propagation de l'incendie. Et il y a un second facteur très important, c'est que de plus en plus, on a une végétation qui progresse. On parlait tout à l'heure de biomasse, donc la masse du vivant. La masse du vivant
elle
dans
progresse.
Les forêts provençales est en train de progresser parce qu'il y a moins d'usages, il y a moins de troupeaux, il y a moins de coupes de bois comme on le faisait au 19e siècle ou au 20e siècle. Donc la forêt progresse de façon importante. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais qui dit beaucoup plus de combustible dit automatiquement évidemment des feux beaucoup plus violents et rapides, attisés par ces températures de plus en plus extrêmes.
Éric Maillet, chercheur à Aix-en-Provence, la semaine dernière, lundi dernier, le GIEC a rendu le premier volet de son rapport sur l'évolution du climat. Il prévient que la planète va subir une augmentation sans précédent des canicules. Il va donc falloir se préparer à des séquences d'incendies telles que celle-là plus fréquentes. Est-ce que les scientifiques préparent ou ont déjà des modélisations pour mieux anticiper les risques d'incendie?
Oui, tout à fait. Alors c'est même le travail, on peut dire, des scientifiques que de produire ce type de modèle. Alors effectivement, on a tous ces modèles qui essayent de relier le changement climatique finalement au risque incendie, aux fréquences et au régime d'incendie. Ce qu'on peut dire en fait, c'est qu'on constate que ce soit d'ailleurs à partir des modèles ou que ce soit de façon beaucoup plus empirique, le risque incendie répond très fort en fait au changement climatique. C'est-à-dire que finalement, de petites variations, si vous voulez, des moyennes, notamment des moyennes de température, sont susceptibles vraiment de se traduire par de fortes augmentations du risque et donc des fréquences d'événements. Pour des tas de raisons, c'est très cumulatif en fait. C'est-à-dire que le changement climatique, il influe sur les écosystèmes à long terme. Il influe sur l'état hydrique juste avant, comme ça a été expliqué, juste avant le feu. Et puis le changement climatique aussi influe sur les conditions météorologiques au moment du feu, comme on vient d'en faire l'expérience. Donc ça, tout ça se cumule en fait, et donc on a une forte réponse, on peut dire, du risque incendie au changement climatique.
Alors réchauffement climatique
plus important.
Oui. Réchauffement climatique, d'accord, mais il y a, Éric Maillet, d'autres facteurs qui augmentent les risques d'incendie. Par exemple, l'urbanisation, la prolifération de l'habitat. Dans quelle mesure est-ce que ça favorise, là aussi, les risques d'incendie ?
Voilà, donc ce sont les deux grands chapitres. Hein. Vous avez le climat d'un côté, et puis vous avez ce qu'on peut appeler les dynamiques territoriales, hein, les changements territoriaux, qui d'ailleurs peuvent inclure aussi les changements sur les écosystèmes. Mais évidemment, il y a cette progression des zones urbaines. Il y a d'une part la progression, comme ça vient d'être expliqué, la progression de la biomasse, en fait, hein, qui se développe. Et de l'autre côté, il y a une progression des zones urbaines, des zones artificialisées, qui sont très fréquentées, qui sont à l'intérieur même de la forêt, hein, pour faire ces fameuses interfaces, qu'on parle interface habitat-forêt ou interface urbain-forêt, mais qui sont intriquées, hein, ça se voit très bien sur les photos aériennes. Et ça, ce sont des zones qui sont très dangereuses. Hein. D'abord, elles sont très difficiles à défendre, ça, le colonel pourrait nous en parler. Et puis, ce sont des zones d'initiation, hein, puisqu'on va trouver 60-70% d'initiation qui partent des interfaces, des zones d'initiation et d'éclosion. Et puis, ce sont aussi des zones de vulnérabilité, hein, c'est-à-dire que ben il faut les défendre. Ouais. Quoi, hein, il faut, c'est là où se trouvent les personnes, c'est là où se trouvent les biens. Et bien souvent, les pompiers vont concentrer leurs moyens pour essayer de défendre les zones d'interface, éventuellement, plutôt que de se positionner dans des serait peut-être plus efficace pour limiter la propagation.
Allez, il nous reste 5 minutes avant 20h. On va retourner au standard avec une question de François qui nous appelle de Grenoble. Bonsoir François.
Oui, bonsoir.
Quelle est votre question ?
C'était plus une remarque. Le gouvernement s'est mis d'accord pour pouvoir mettre des sous dans une opération Frontex pour surveiller les frontières. Pourquoi il n'y aurait pas la création aussi d'une flotte qui puisse intervenir dans des incendies qui vont devenir de manière de plus en plus régulière, qui puisse intervenir sur les pays de l'Europe, y compris les plus pauvres, mais aussi par solidarité sur les pays du bassin, et quelque chose qui soit une vraie politique et pas l'envoi au coup par coup, quand c'est nécessaire, d'aide dans les différents pays.
Voilà. Bien, sur cette solidarité internationale des moyens de lutte contre le feu et de prévention également, colonel Pierre Chaleur, alors on sait qu'on se prête entre pays européens et même pays africains, nord-africains, on se prête les avions, enfin en tout cas on se déplace jusqu'en Algérie ou au Maroc pour aller éteindre avec les canadaires français, solidarité internationale. Sur les moyens de prévention, est-ce qu'il pourrait y avoir des vigies mises en commune?
Alors, d'abord, je vais pouvoir dire à François que j'ai une bonne nouvelle pour lui, parce que ce qu'il souhaite existe déjà. Ça s'appelle le mécanisme de protection civile de l'Union, et ça permet la mutualisation pour 27 pays adhérents à l'Union, plus de 27 pays adhérents à l'Union européenne ou adhérents à ce mécanisme quand ils ne sont pas membres de l'Union européenne, de bénéficier d'un appui mutuel et réciproque, ce qui a été mis en œuvre ces dernières semaines de façon extrêmement active au bénéfice de l'Italie, notamment en Sardaigne, au bénéfice de la Grèce, au bénéfice de la Macédoine
et de l'Algérie,
et même pour des pays hors Union européenne comme l'Algérie ou
le Maroc,
souvent Israël où nous avons pu aller. Alors pour ce qui est de la mise en commun des moyens de lutte, c'est très lourd, mais ça se fait. Ça fonctionne, c'est rodé, il y a un programme de formation des gens pour que tout le monde apprenne à travailler avec tout le monde, parce que ce n'est pas évident forcément quand on se retrouve avec des habitudes opérationnelles différentes. Pour ce qui est de la partie de la prévention, nous sommes sur un programme qu'on appelle d'échange de bonnes pratiques, c'est-à-dire qu'on échange avec nos camarades italiens, grecs, espagnols, mais aussi de l'Europe du Nord et de Scandinavie, nos pratiques, notamment pas seulement les pompiers, hein, parce que ça concerne pas les pompiers. Ce que je voudrais dire, c'est que votre échantillon, si je peux dire, d'invités est très bon, puisque il y a des gens qui relèvent de différentes disciplines. La prévention est en termes d'échange de bonnes pratiques. La prévention se fait avec nos camarades forestiers, souvent avec des scientifiques, avec des universitaires. Et il y a cette mise en commun d'informations et d'études. Il y a beaucoup d'études et de recherches passionnantes qui sont menées par des universités ou par des instituts ou par des pays. Il faut que l'information circule, et autant on travaille et on commence à avoir un bon rodage sur la mise en commun du système de lutte, autant on a peut-être quelques progrès à faire en termes d'échanges sur les pratiques forestières en zone méditerranéenne, par exemple, sur les pratiques de brûlage dirigé. Monsieur Velaille et Monsieur Maillet évoquaient de façon tout à fait pertinente la question du combustible et la biomasse qui s'accumule. Nos camarades californiens, qui connaissent des difficultés récurrentes maintenant tout au long de l'année, parlent de fuel management, en clair la gestion du combustible, et notamment de la nécessité de pratiquer à grande échelle ce que nous pratiquons déjà en France, notamment dans le Midi méditerranéen, le brûlage dirigé, de façon à ce qu'en dehors de la saison estivale, on puisse limiter et petit à petit faire diminuer cette biomasse extrêmement importante.
C'est la question que voulait poser Julie, qui nous appelait de Beauvais. Malheureusement, je ne vais pas lui donner la parole. La lutte du feu par le feu, est-ce qu'elle est envisagée ou pratiquée en France? Votre réponse est oui.
Les deux. Elle fait partie de la panoplie d'armes qui sont à la disposition du commandant d'opération de secours. C'est une pratique difficile. C'est une pratique qui ne peut pas se faire en solitaire. Ça demande des gens très bien entraînés. On travaille avec nos camarades forestiers qui ont une bonne pratique aussi de ce genre de choses. Ça fait partie des outils de lutte et c'est réellement quelque chose qu'il faut garder présent à l'esprit.
Eh bien, merci à tous les quatre. Il y avait Thierry Bonjourneau, le maire de Gonfaron, le colonel Pierre Chaleur, Frédéric Médaille et Éric Maillet. Merci beaucoup d'être venus éclairer nos lanternes sur ces incendies de forêt. On a bien compris que les prochaines heures seront décisives. Merci beaucoup. Beaucoup à la préparation ce soir, il y avait Adèle Domas, Pierre de Certaine, Zoé Fauché. À la technique, Tristan Gratalon et Loïc Frapsos. Dans quelques secondes, il sera 20h.